Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
9h40 sur France Inter, l'instant M sur son 31.
Vous êtes en direct, allez-y.
Marc Bauger est devenu une figure médiatique. Il écrit dans la presse, il passe à la télé. Monsieur Rabille, jamais il ne relook. Les mots ont un sens tout autant que les habits, selon lui. Le voici qui distille partout son savoir en matière d'histoire du vêtement, avec une forme de préciosité, un poil pédant. À moins qu'il y ait toujours sous la plume de Marc Bauger un indiscernable second degré. Le style est-il une affaire sérieuse ou joyeuse? Une chose grave ou une chose futile? On ne sait jamais très bien, tant le journaliste manie l'ironie. L'homme se dit très inspiré par les Anglais. Il en aurait donc assimilé le pince sans rire. Cela lui permet de se foutre allègrement des tendances pour assumer en toute décontraction ses obsessions. Mais un obsédé n'est jamais vraiment décontracté.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Marc Bauger.
Bonjour Sonia.
Alors, chronique dans Quotidien de Yann Barthès sur TMC, page dans M, le magazine du Monde, vous disséquez l'allure d'hommes et femmes publics. Mais aussi, c'est surtout l'Excellent Society, quinzomadaire de société, lancé sur papier il y a 3 ans avec succès. Vous en êtes le rédacteur en chef. Enfin, arrive en kiosque. Ça, si vous me regardez en vidéo, l'étiquette, tout est dans le sous-titre de cette nouvelle publication. Le guide de l'élégance masculine. Pourquoi le guide et non pas le magazine? Pourquoi l'élégance et non pas la mode?
Le guide parce qu'il y a un côté serviciel, c'est-à-dire que on donne des
quel mot affreux.
Ça, là, je suis désolé, ça commence très mal. On donne des conseils pour s'habiller. Donc il y a une partie magazine dans l'objet, mais il y a aussi une partie guide dans le sens où voilà, on donne des conseils, des recettes, des petites idées, des choses que les gens pourront utiliser assez pratiques. Et puis élégance plutôt que mode parce que l'élégance m'intéresse plus que la mode. Mm-hmm. La mode pour moi est d'abord une industrie. L'élégance c'est autre chose, c'est une culture, comme il y a une culture de la food, du vin, du cinéma, je pense qu'il y a une culture du vêtement qui raconte pas mal de choses sur le monde, et c'est ça qui m'intéresse davantage que l'industrie de la mode.
Alors je vous propose de décrocher un instant pour un tout petit peu d'actualité des médias, et puis on revient aux vêtements. Le groupe de presse Le Monde est détenu par ses salariés, mais également par une holding. Dans cette holding, on trouve l'Espagnol Prisa, ainsi que Xavier Niel et Mathieu Pigas. Ce dernier confirme vouloir faire entrer un nouveau partenaire financier dans l'une de ses sociétés. Il s'agit de Daniel Kretinsky, homme d'affaires tchèque, dont l'offensive sur le marché de la presse français s'avère spectaculaire. Il a déjà racheté le magazine Marianne et presque tous les titres de presse du groupe Lagardère, sans que nul ne sache à ce stade quelles sont les convictions ce monsieur, sur le plan idéologique ou sur le plan économique. Même si Mathieu Pigas n'est pas en train de lui vendre directement des parts dans Le Monde, quotidien de référence nationale, leur association rend cette question désormais cruciale. Marc Bauger est mon invité pour le lancement de son guide de l'élégance masculine. Donc là, c'est automne-hiver. Le prochain, ça sera
printemps-été.
Ça sera au mois de février. Marc Bauger, avant, le critère d'achat d'un bon vêtement, c'était son prix. Cher, synonyme de qualité, qui en garantissait la longévité. Début des années 80, des publicitaires nommés Philippe Michel, Benoît Devarieux, Étienne Chatiliez font ça. Et là, tous les repères s'inversent. On dépense moins, mais on change de pompe au gré de la mode et au gré de l'humeur. Je me suis demandé, moi, en lisant l'étiquette, si vous ne reveniez pas 40 ans en arrière.
Un peu, sans doute. Et on assume ça, on assume en fait de revenir à des critères d'élégance qui sans doute, pour moi, sont plus intéressants. C'est une forme de bon goût simple. C'est-à-dire que je pense que l'industrie de la mode est devenue si puissante qu'elle parvient à imposer des goûts. On prend un objet de mode qui marche en ce moment, on le sort de son contexte, on le pose sur un fond blanc, je pense que beaucoup de gens le trouvent moche. Mm-hmm. Simplement, l'industrie de la mode est puissante, elle parvient à travers la pub, à travers les influenceurs, à travers les images qu'elle montre, à rendre désirables des objets que spontanément on trouverait moches.
Mais il y a surtout l'idée qu'on rend désirables de nouveaux objets sans cesse.
En permanence, voilà, il y a le cycle des cycles de la mode augmente.
Alors que vous revenez aux souliers et aux chandails de bonne facture que ton mari gardera toute sa vie, aurait dit ma grand-mère.
Un peu. L'idée, c'est quand on s'achète un objet qui est bien fait, qui est qualitatif et qui a un goût intemporel, on va pouvoir le garder, le porter longtemps. Des beaux vêtements, ça s'use et ça devient de plus en plus beau. Moi, je crois plus à ça qu'en une mode éphémère et la tyrannie des hit shoes ou des hit bags. Alors, c'est peut-être un peu ringard, mais c'est ce à quoi je crois. Je trouve que le vêtement a plus de sens quand il vieillit, quand il vient de quelque part et qu'on s'en sert et qu'on le porte.
Alors, justement, Madison Avenue in the 60s. La mode masculine est-elle réactionnaire, Marc Bauger ? Est-elle le temple du classique et du patrimoine, là où la mode féminine, en revanche, serait plus légère et plus soumise à la tendance et à l'envie et à l'humeur ?
On peut le dire comme ça. J'ai l'impression que la mode féminine est davantage portée par une sorte de démarche artistique, assez noble d'ailleurs. C'est pas du tout pour dénigrer, au contraire, une démarche artistique créative où vraiment le créateur s'exprime et où une saison efface la précédente. On recommence à zéro. La mode masculine, pour moi, elle est faite de références. De références historiques, culturelles, et finalement, on réinterprète les mêmes objets, on les peaufine. Le costume, ça fait 200 ans, qu'il est...
C'est en couverture de l'étiquette. Comment porter le costume quand on a moins de 30 ans?
Avec ou sans la cravate. Le costume, ça fait 200 ans qu'il a abouti. C'est sans doute l'absolu du vêtement. On en portera encore dans 100 ans. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute le vêtement qui flatte le mieux la carrure de l'homme. Et pour moi, la mode masculine, c'est ça. C'est pas sans arrêt tout balayer, tout jeter pour refaire son vestiaire chaque saison. C'est au contraire affiner, peaufiner, porter, user et rendre de plus en plus beaux les choses.
Alors ce qui est extrêmement intéressant quand on vous lit un peu partout, quand on vous regarde, quand on vous écoute, c'est que vous vous passionnez pour l'histoire du costume et en même temps, vous vous passionnez tout particulièrement pour l'histoire du vêtement ouvrier, mieux encore, l'histoire du vêtement militaire. Ce sont des références qui reviennent sans cesse.
Parce que c'est très... Le vêtement, il a du sens quand il a une utilité. Dans le numéro, on fait beaucoup référence aux pantalons des charpentiers. Ils ont des passants sur lesquels ils accrochaient des outils. On parle aussi des bottes. Alors les militaires rentrent traditionnellement leurs pantalons dans leurs bottes pour pas que les serpents puissent...
Vous dites qu'ils sont d'ailleurs en matière d'allure les seuls à être autorisés à le faire.
Non, je conseille à personne d'autre dans la vie de rentrer son pantalon dans ses bottes. Mais voilà, j'aime bien ça. Et je pense que savoir ces choses-là fait qu'au final on est mieux habillé, on est habillé en conscience, c'est-à-dire que pourquoi certains garçons roulent leurs manches de t-shirt, à l'origine c'était pour coincer un paquet de cigarettes souples, je trouve que le savoir permet de choisir si on le fait ou pas en conscience, on rend plus intelligent la façon dont on s'habille. Et c'est vers cette élégance-là, je pense, qu'on doit tendre, une élégance en conscience plutôt qu'une élégance imposée par des intérêts économiques.
Alors allons-y. Marc Bauger, courte séquence télé, Fashion Hotline dans Quotidien, je l'ai dit, sur la chaîne TMC, et une page dans Le Monde, extrait dans Quotidien, qui date, attention, il y a des mois, pas là, cette semaine, pour le remaniement.
Il y a quelques jours, dans l'émission politique, on a aperçu Christophe Castaner et on a découvert ses nouvelles chaussures en cuir à la patine bleu marine assorties au costume. Tu vois ce genre de chaussures-là, patinées, bleu, rouge, des comme-ci, comme ça, hop, moi c'est non, quelle que soit la couleur.
Ah bon ? Ah bon ?
La chaussure absolue du kéké.
Alors, le monsieur est désormais... Oui. Mais oui. Non, mais...
Ça fait partie du jeu.
Justement, c'est une des questions, elle arrive après. Le monsieur est désormais, on parle de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Et depuis mardi, un être humain, seul, ne peut même plus comptabiliser le nombre de mentions faites dans les médias de sa chaîne en or autour du cou, de ses chemises ouvertes, du look de kéké dans ses jeunes années. Et ça, c'est bien, bien plus commenté que des questions sur un éventuel projet pour le ministère de l'Intérieur. L'habit fait-il le moine, Marc Bauger ?
je pense qu'il faut se méfier de ne traiter qu'un sujet au travers de l'image. Mmh. Effectivement, c'est plus efficace de tweeter ou d'instagrammer une image de Castaner avec la nuque longue et la chaîne en or et de faire une blague derrière que de rentrer dans une analyse du discours. Ceci dit, ça raconte des choses. Oui. Ça raconte des choses sur son parcours. Oui. C'est quand même un homme qui a un parcours étonnant, qui vient de loin, qui a eu au début de sa carrière, de sa vie, des fréquentations étonnantes et qui arrive au ministère de l'Intérieur. Et c'est signifiant, enfin, c'est le parcours d'un homme. Je pense que le vêtement raconte beaucoup du parcours de quelqu'un, de sa personnalité, ses aspirations.
Bien entendu, on n'est pas naïf, c'est-à-dire on sait bien que lorsque Jean-Luc Mélenchon troque son costume pour une veste d'origine ouvrière, dont vous devez connaître le nom, voilà, c'est un geste de communication politique, donc c'est un geste
de couvreur, en l'occurrence.
Une veste de couvreur, voilà. On sait bien ce que les vêtements de luxe disent de Rachida Dati quand elle était au gouvernement, ou même de notre société, c'est-à-dire Michèle Alliot-Marie interdite d'Assemblée nationale parce qu'elle portait un pantalon en 1972 même, pour être précis. Et en même temps, quand on vous voit rhabillé, puisque c'est le terme que vous utilisez, les hommes et les femmes publics dans la page du Monde, on se dit, un habit de scène, oui, un habit de tapis rouge, oui, un habit de princesse anglaise, oui, ce sont des exercices de représentation. Mais les hommes et les femmes politiques qui œuvrent pour le bien public, on n'en peut plus de ces commentaires, non, sur l'apparence, sur la communication, sur l'extérieur.
Je peux tout à fait l'entendre et je ne conseillerais à personne de s'informer uniquement en termes de politique au travers de mes chroniques. Ouais. Je pense qu'elles viennent se rajouter à évidemment une culture politique sur le fond et la forme n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée du fond. Moi, j'essaye de donner du fond par le vêtement, c'est-à-dire que quand je raconte un homme politique par ses vêtements, j'essaye d'y mettre aussi une culture vestimentaire, de savoir d'où ça vient, pourquoi 2-3 boutons sur une veste, pourquoi ces souliers là.
C'est vrai.
J'amène davantage dans finalement quand je m'intéresse aux politiques à l'histoire du vêtement plus qu'à le décryptage d'une parole politique.
Vous admettez que vous êtes parfois féroce dans cette page-là, ou c'est de l'ironie, ou c'est du second degré.
Parfois on me demande, mais je sais même pas trop. Ça me passionne très sincèrement.
Ouais.
C'est vraiment, je fais pas semblant. Après, je juge pas les gens sur leurs vêtements. J'ai plein de copains qui sont pas du tout sensibles à ça. Et
surtout, quelque chose qui vous différencie, on va dire, de confrères ou de consoeurs, vous ne jugez jamais, enfin, vous ne mettez jamais en lien le vêtement porté avec l'âge ou le physique de la personne. C'est-à-dire, vous ne direz jamais comme une Christina Cordula, ça jamais passé 60 ans, ça jamais quand on a de grosses fesses.
Ouais, j'essaye. Le corps m'intéresse assez peu. Le corps est un autre sujet. Je suis assez gêné à parler même des cheveux, même du corps. J'ai une forme de retenue à émettre des conseils. Je dis pas aux gens d'aller faire du sport, comme ça ils porteront mieux le costume, parce que déjà moi-même je suis mal placé pour dire ce genre de choses.
Ah,
mais c'est vrai que j'ai une forme de retenue sur ça. Même parler des femmes, parfois, est moins facile pour moi, parce que le vêtement masculin, j'ai un rapport intime à lui, je le porte, je l'use, je me pose les questions moi-même. Des fois, sur les femmes, j'ai une forme de retenue, parce que j'ai jamais mis de robe, ni de jupe, ni de talon. Je voudrais pas avoir l'air de donner des conseils complètement venus d'ailleurs et d'être comme ça un peu dictatorial sur des choses. Et surtout, j'émets pas de jugement moral. Enfin, j'essaye de pas en émettre. J'ai pu me planter si je l'ai fait. Mais les jugements moraux,
j'aime pas trop ça. Vos premières amours, les Kinks. Et alors ? Et c'est vrai qu'ils sont loin, ils sont en Angleterre. Il faut les faire venir jusqu'au studio.
Il y a une heure.
Voilà, les Kinks, 1964, de la musique à la mode, ça vous l'avez souvent raconté, quand vous avez été influencé par ces périodes anglaises. À la lecture de l'étiquette, le cinéma est très présent, toujours très présent, pas la musique, ni les influences rock, portées, on va dire, par un Heidi Sliman qui fut tout puissant à une époque dans la mode, ni par les influences rap qui triomphent aujourd'hui au sommet même de la couture, portées par un Kanye West, par exemple, et son ami Virgil Abloh, américain, noir, moins de 40 ans, arrivé chez Vuitton. Pourquoi
c'est pas dans le magazine? C'est un peu
Est-ce que la musique continue d'amener des choses pour vous, à la mode masculine?
Je pense que oui. J'écoute de moins en moins de musique pour des raisons que j'ignore d'ailleurs. Mais du coup, je pense que c'est aussi pour ça que dans le choix des sujets, on est un peu porté par ces centres d'intérêt personnels et organiques. Pourquoi il y en a
Pierre
pas dans
Richard,
le magazine
Pierre Richard, par exemple.
Pierre Richard m'intéresse beaucoup, voilà. Par exemple. Il y en aura sans doute de la musique dans le numéro 2, évidemment. Le cinéma a une dimension visuelle que j'ai pas juste, enfin que tout le monde comprend, et donc qui permet de parler du vêtement quand on raconte la carrière de Milena Canonero, qui est peut-être la plus grande costumière de l'histoire du cinéma. On voit des images de films, on voit Wes Anderson, les films de Stanley Kubrick.
Et puis c'est toute cette polysémie que vous aimez sur le mot costume.
Voilà, c'est ça, le costume. Comment en fait on parvient à raconter un personnage au travers de ses vêtements, même quand le personnage ne parle pas, on sait qui il est, d'où il vient, et socialement ce qu'il représente dans le film.
Polysémie aussi du mot étiquette, puisque voilà, c'est à la fois ce petit bout de papier qui dit le prix, ouais, ou petit bout de tissu qui dit la marque, et puis...
Et le savoir vivre, le savoir être, le savoir porter, c'est effectivement.
C'est même ce qui classe quelqu'un. On va dire, dans une appartenance
bien
sociale.
Sûr, l'étiquette, on est tous étiquetés d'une certaine façon, à regret ou pas, mais effectivement, on est tous un peu étiquetés.
Alors moi, j'ai l'impression, Marc Boget, que vous étiquetez les images. C'est-à-dire que déjà, avec Society, dont vous, je répète, vous êtes le rédacteur en chef, mais particulièrement là, avec l'étiquette, vous réinventez l'art de la légende dans la presse. C'est-à-dire que d'ordinaire, la légende d'une photo de mode, elle est purement informative, ouais. Pardonnez-moi. Donc il y a la marque, le nom du vêtement, éventuellement son prix, ouais. Ça dépend de la catégorie de magazine.
C'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est un truc auquel on tient. Souvent, dans les séries mode, les gens feuillettent, en fait, ne s'arrêtent pas sur l'image. Moi, on a essayé que les gens lisent l'image. Donc, on met du texte dans l'image, on explique la tenue, parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Enfin, un stylisme, quand il est bien fait, peut être vraiment porteur de sens. Et quand on met un trench, quand on met la ceinture du trench sur l'arrière, on le fait pas par hasard, on le justifie. Et il y a plein de choses à raconter sur les images de mode quand elles sont précises.
Par exemple, une vieille règle d'élégance anglaise, no brown in town.
Voilà, no brown in town, on l'explique dans le magazine
ville.
Pas de marron en ville traditionnellement. Mm-hmm. Ça s'appliquait d'abord aux chaussures et puis c'est devenu une règle vestimentaire plus large. Nous, on appelle à s'en libérer parce que cette règle-là, elle est dure à tenir et puis elle est dommage. Et puis la distinction tenue de ville, tenue de campagne se fait quand même un peu moins qu'il y a 200 ans.
Pourquoi dit-on Saint-James pour les pulls marins et pas Saint-James, comme on dit tous?
C'est l'histoire de la ville bretonne où la marque est installée, qui était anglaise et qui est devenue française. Et du coup, la prononciation a changé. Ça, on l'explique aussi un peu dans...
Pourquoi ne faut-il pas apporter de chemise sous un pull à rayures ou à motifs?
Parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses sur un pull à rayures ou à motif, et je pense que ça suffit.
On peut donc s'habiller en rouge et en beige?
Alors, c'est une combinaison de couleurs étonnante, mais que j'aime beaucoup, qui marche très bien. Le chino qui est beige par nature, et le pull
ça,
rouge,
le
pull rouge au-dessus. Je trouve qu'il y a une forme d'élégance classique que j'aime beaucoup. J'invite les gens à essayer chez eux.
N'ayez pas peur. En fait, c'est ce que vous dit ce magazine à peu près à toutes les pages. N'ayez pas peur.
On essaye de pas imposer un style. Moi, à la télé, je suis souvent en costume, mais je voulais pas mettre que des costumes dans le magazine parce que je pense qu'il y a plein d'élégances différentes, même des élégances assez décontractées. Les skateurs de République sont très chic parce que ce qu'ils portent est pas de la mode, ce qu'ils portent est utilitaire. Et je trouve que l'élégance, elle est là quand on s'habille utile et que ça devient beau, naturel et ça donne de l'aisance.
Merci beaucoup, Marc Boget. L'étiquette est donc sortie en kiosque et c'est le numéro automne-hiver. À
Merci
très
beaucoup.
Bientôt. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour, j'ai adoré. Hein. J'ai feuilleté avant de venir.
C'est
Marc Boget m'a filé le canard. C'est vraiment bien.
Tout ça parce qu'il flippe à l'idée de parler de pornographie.
Mais non,
allons-y. Droit au but.
Mais c'est vrai. La pornographie nuit-elle à la sexualité? Dites-nous tout. Hein, au 01 45 24.
C'est
sobrement posé. 01 45 24 7000. Je vous pose même pas la question, Sonia Demida.
Moi, très plus que ça, mais moi, je me demande bien ce que les gens vont vous raconter au standard.
Ah, mais écoutez,
bonne émission.